Encore une fois, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous venons d'avoir, Seigneur, avec toi et en ta présence. Encore une fois, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance, Seigneur, pour avoir eu le temps de nous approcher de toi, pour avoir eu le temps, Seigneur, non seulement de nous approcher de toi, mais d'épancher nos cœurs en ta présence, pour assumer notre première vocation, celle de t'adorer, celle de te louer. Car tu es à la recherche, Seigneur, de véritables adorateurs, à la recherche, Seigneur, d'hommes et de femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh, apprends-nous, Seigneur, à mieux t'adorer. Nous avons beaucoup à apprendre dans ce domaine. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que par ton esprit tu nous aides, tu nous assistes, tu nous soutiennes, Seigneur, dans cette vocation d'adorateur. Merci pour tout. Après ce moment, nous voulons, Seigneur, nous taire et faire taire toute autre voix, afin que toute notre attention, Seigneur, soit tournée vers toi, que toutes nos oreilles reste attentive, Seigneur, à ta voix. Ce matin, tu as quelque chose à nous communiquer. Nous voulons le recevoir avec foi, avec confiance. Car il n'y a que ce qui vient de toi qui est de nature, Seigneur, à nourrir notre foi. Ce n'est que lorsque nous entrons dans ta présence, lorsque nous nous abandonnons entre tes mains, et que là, Seigneur, ô Dieu, par ta parole et au travers de ta parole, tu peux alors accomplir cette œuvre de transformation, de métamorphose pour nous faire ressembler au modèle parfait, à savoir ton Fils bien-aimé, le Christ, notre Sauveur et Seigneur, lui qui est assis à ta droite et qui intercède pour nous, lui qui est notre souverain sacrificateur, lui par qui tous avons accès auprès de toi. Parle-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Je voudrais ce matin revenir sur notre thème du 23 juillet. Je sais que vous avez tous une mémoire éléphantesque. Vous pouvez remonter dans le temps jusqu'au 23 juillet. Et là, vous verrez qu'il avait été question des dispositions de notre cœur lorsque le Seigneur nous fait la grâce d'accomplir sa volonté. Nous allons donc revenir à cette vérité qui est d'une importance capitale. Car nous savons tous que le Seigneur nous demande d'être actifs dans son œuvre. Nous savons tous qu'il nous appelle à être actifs dans nos assemblées, à ne pas faire preuve de fainéantisme ou de paresse spirituelle, mais plutôt à nous lever pour obéir à sa parole d'une manière ou d'une autre. Mais cependant, nous devons savoir que ce qui compte d'abord et avant tout aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant les actes que nous posons en son nom, ce n'est pas tant les œuvres que nous accomplissons en conformité avec sa parole, mais c'est d'abord et avant tout les dispositions de nos cœurs. C'est d'abord et avant tout les motifs, les motivations derrière tout ce que nous faisons. Cela est important. Puisque tôt ou tard, nous quitterons cette terre et nous nous en irons près de lui. Et là, la Bible nous dit qu'il y aura des récompenses que le Seigneur accordera à chacun de nous. Voyez-vous? Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous seront déçus. Car ils diront, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le Seigneur leur dira, oui, tu l'as fait, c'est vrai. Tu as posé beaucoup d'actes, c'est vrai. Mais tu le faisais avec des motivations impures. D'où l'importance de ce thème, d'où l'importance, comme nous allons le voir, de faire un petit break de temps à autre pour nous tenir très objectivement devant le Seigneur et lui demander de nous examiner, de nous aider à faire une sorte d'introspection pour voir quels sont les motifs derrière ce service que nous sommes censés faire pour le Seigneur, quels sont les motifs, quelles sont les motivations derrière tous ces actes que nous posons, soi-disant des actes d'amour ou de charité. Nous allons lire, là, nous avions déjà lu ce texte-là le 23 juillet, mais c'était en complément du texte principal, à savoir le texte de, le livre de Jonas. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, les 7 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais, voilà où le bas blesse, là où les Romains s'empoignèrent. Mais, je contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïte, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Les dispositions du cœur, lorsque nous nous levons pour accomplir, s'il vous plaît, les dispositions de nos cœurs, lorsque nous nous levons pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà donc le thème que nous avons introduit le 23 juillet, et en introduction à ce thème relatif aux dispositions dans lesquelles nous nous trouvons lorsqu'il est question d'obéir à la parole de Dieu, nous avions donc examiné la manière dont le prophète Jonas avait accompli la mission qu'il avait reçue de la part de Dieu. En effet, le Seigneur s'était révélé à Jonas et lui avait demandé de se lever pour aller à Ninive, la grande capitale, la grande ville qui était donc la capitale de l'Empire assyrien, afin d'y annoncer la parole de Dieu, de proclamer sa parole. Car, dit le Seigneur à Jonas, la méchanceté de ce peuple, la méchanceté des habitants de cette ville est montée jusqu'à moi, et ma colère est prête à éclater. Pour arrêter cette colère, pour que les Assyriens ne subissent pas les affres, l'horreur de la colère de Dieu, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix que de reconnaître leurs péchés, de reconnaître qu'ils étaient sur une voie plus que dangereuse, une voie horrible, et de revenir à Dieu par la repentance. Mais comment se repentir s'ils ne sont pas confrontés à la parole de Dieu? Voilà donc pourquoi le Seigneur appelle Jonas. Et lui demande d'aller dans cette ville et de prêcher. Mais Jonas se lève, non pas pour obéir, mais plutôt pour fuir la volonté de Dieu. Fuir. Il prend la poudre d'escampette, il prend la tangente, et il prend le bateau pour aller à Tarsis. Au lieu d'aller vers l'est, vers Ninive, le voilà qui se dirige vers l'ouest. Vous voyez? C'est donc l'histoire comme nous l'avons vue. Et le petit livre de Jonas est là, l'histoire d'un homme, un homme qui a pleinement connu la volonté du Seigneur, l'homme qui a su exactement ce que le Seigneur attendait de lui, où il devait aller pour accomplir cette parole, quand il devait aller. Mais cependant, c'est l'histoire d'un homme qui va refuser de se soumettre à la volonté de Dieu et qui finalement va obtempérer dans des conditions difficiles par rapport à lui-même. Ce qui est terrible avec ce prophète, comme nous l'avons vu, je vous rappelle, hein, pour ceux qui auraient oublié, ce qui est terrible avec ce prophète, c'est qu'après avoir annoncé la parole de Dieu, après avoir accompli avec succès son ministère, puisque son ministère à Ninive, la prédication de sa parole va connaître un succès indéniable, mais ce qui est terrible avec lui, c'est que voyant le réveil prendre place dans cette ville de Ninive, voyant les Assyriens et d'autres peuples qui habitaient la capitale, Ninive, se convertir, se repentir, pleurer sur leurs péchés, l'homme se met à bouder. L'homme en veut au Seigneur d'avoir accompli sa parole. Allez comprendre. L'homme reproche à Dieu d'avoir conduit ce peuple-là à la repentance au travers de la prédication de sa parole. La réaction de Jonas, son attitude, lorsqu'il voit les gens se tourner vers Dieu, des païens évidemment, eh bien son attitude nous révèle clairement l'état de son cœur, les dispositions dans lesquelles cet homme a accompli la mission qu'il avait reçue de la part de Dieu. Une mission, par ailleurs, réussie. Mais une mission qui ne va pas procurer de la joie à celui qui l'a accomplie. Ça veut dire que dans son cœur, il y avait d'autres dispositions qui étaient tout à fait à l'ouest de la volonté de Dieu, même s'il avait fini par accomplir cette volonté. Cet homme détestait les Assyriens, car ces Assyriens étaient l'ennemi du peuple d'Israël. C'était l'ennemi du peuple de Jonas. Ils avaient fait du mal aux Israélites, voyez-vous. Et par conséquent, Jonas n'avait qu'une chose dans son cœur, que la colère de Dieu éclate et détruise les Assyriens ou les Ninivites. Voyez, il n'avait qu'un seul désir, c'est de voir ce peuple se consumer par la volonté de Dieu et ne pas voir ce peuple faire l'objet de la miséricorde et de la compassion du Seigneur. Comment est-ce possible? Comment peut-on servir le Seigneur avec un cœur pareil? Comment peut-on, mes amis, obéir à la parole de Dieu, se lever pour obtempérer aux injonctions du Seigneur avec un cœur pareil? Oui, mes amis, il est possible. Oui, il est tout à fait possible de marcher à contre-cœur, de marcher contre son gré, de marcher avec des motivations impures dans l'œuvre de Dieu, de faire des choses par intérêt, par contrainte, par devoir. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire très attention. Quand on voit l'activisme religieux autour de nous, quand on voit des concerts, soi-disant, d'adoration qu'on organise ça et là, des séminaires, des meetings de tout genre, voyez-vous, on organise ceci, on organise cela, je me pose une question, quelle est la motivation derrière tout ça? Pour beaucoup d'entre nous, c'est seulement une manière aussi de montrer aux Quinois que nous sommes là aussi. Si eux font le séminaire, moi aussi je peux le faire. Si eux organisent des réunions de réveil, moi aussi je peux le faire. Et donc la motivation n'est plus pure. La motivation, eh bien, c'est simplement donner à notre moi l'occasion de se mettre en exergue, de se mettre en évidence. La motivation, c'est d'amener notre moi sur le piédestal, afin que tout le monde enfin sache qu'à Massina, il y a un apôtre. À Ngili, il y a un évêque qui est tout à fait singulier. Voyez-vous, les dispositions de nos cœurs. Voilà pourquoi, chers amis, les dispositions de nos cœurs, alors que nous accomplissons la volonté de Dieu, eh bien, cette question fondamentale, elle est primordiale. elle est d'une importance capitale. Vous voyez? Nous devons donc toujours nous poser cette question lorsque nous sommes en train de travailler avec le Seigneur ou pour le Seigneur. Nous devons toujours nous poser cette question avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, afin de réaliser quoi que ce soit vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de l'Église. Nous devons toujours nous poser cette question. Seigneur, est-ce bien par amour de toi et par amour pour toi, et non pas par intérêt, et non pas par contrainte ou devoir, que je fais ceci ou que je fais cela? Seigneur, est-ce que j'agis ou suis-je en train d'agir par amour pour toi et par amour pour les autres? Ou alors derrière toutes ces actions, derrière toutes ces œuvres, y a-t-il un intérêt personnel qui n'a rien à voir avec ta gloire, qui n'a rien à voir avec l'amour que tu attends de moi? D'où la nécessité, mes amis, de faire de temps à autre, même très souvent, un break, de faire une pause de temps à autre pour se tourner vers le Seigneur et lui laisser le temps de nous sonder, nous arrêter, nous tourner vers le Seigneur et passer au peigne fin de la parole les motivations de nos cœurs, passer au filtre du Saint-Esprit l'état de nos cœurs pour voir si nous sommes en train d'agir par amour pour le Seigneur ou par amour pour les autres, ou alors c'est par intérêt. Nous posons des actes parce que nous visons un intérêt, et dans la plupart des cas, des intérêts égoïstes qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Oui, de temps à autre, s'arrêter, se tourner vers le Seigneur et faire cette prière, adresser cette prière de David au Seigneur, prière que nous trouvons dans le psaume 139. Nous en avons parlé le vendredi dernier pour ceux qui étaient là. Le psaume 139, versets 23 à 24. Eh bien, David se tient devant le Seigneur. C'est un homme qui a servi le Seigneur dans sa génération. C'est un homme, un héros de la foi qui nous est présenté comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Il avait eu tant d'expérience avec le Seigneur. Il a eu à faire pas mal de choses pour le Seigneur. Celui qui avait eu au départ l'idée de construire la maison du Seigneur, le temple de Dieu. Eh bien, que nous dit-il dans ce psaume? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Seigneur, je n'ai qu'une vision partielle de moi-même. Oui, il y a un prisme en nous qui déforme la réalité objective par rapport à notre être, par rapport à notre cœur. Puisque nous regardons souvent aux choses que nous faisons, nous avons du temps dans la prière, mais on peut prier avec des motivations impures. Voyez-vous? Prier alors que le cœur est complètement loin du Seigneur. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Seigneur, regarde si mes préoccupations sont en phase avec ta volonté. Ou alors, je cherche à faire des choses parce que tout le monde le fait. Je cherche à faire les choses parce que je vois telle ou telle autre personne le fait. Mes amis, nous pouvons être inspirés par les autres. Notre Église peut être inspirée par d'autres assemblées. Mais cependant, nous ne devons pas faire les choses par mimétisme. Nous ne devons pas faire les choses parce que tout le monde le fait. Chaque Église a son ADN. Chaque Église a une vocation. Oui, il y a des choses que nous avons tous en commun. Mais il arrive des fois que le Seigneur conduise telle ou telle autre assemblée différemment, alors que tout le monde fait ceci ou fait cela. Voilà pourquoi nous devons avoir des dirigeants qui soient sensibles à la voix de l'Esprit, mais qui ne soient pas là comme des gens qui agissent comme des, comment on dit, des chiffons,
qui absorbe tout. Tout ce qu'on voit. Tiens, la borne fait un séminaire, moi aussi. Alors quelquefois, quand je lis, je ne voudrais pas mépriser qui que ce soit. Pas du tout. Je ne pense pas que la borne ait le monopole de séminaire, d'enseignement de la parole de Dieu. Pas du tout. Mais cependant, j'ai vu des thèmes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Thème, toi et moi. Allez. Alors on fait des grandes affiches. Alors on voit le bishop ou le trishop dans une posture un peu bizarroïde. Thème, toi et moi. Pendant 5 jours, toi et moi. Mais le thème doit suggérer quelque chose. Toi et moi, qui? Donc vous voyez, mes amis, par mimétisme, on réagit, on copie, sans avoir la conviction. Et on se retrouve à faire des choses qui n'ont aucune consistance. Nous devons savoir dans quelle direction Dieu va. Je l'ai dit un peu d'une fois. Nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire présentement. Et aller rejoindre Dieu dans ce qu'il fait. C'est alors que nous marcherons dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Mes amis, pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, la seule et l'unique motivation, le seul motif qui doit nous amener à obéir au Seigneur, à accomplir sa volonté d'une manière ou d'une autre, oui, la seule motivation, l'unique motif derrière tout acte, toute œuvre, tout geste posé, devrait être, doit être l'amour. Encore l'amour et toujours l'amour. L'amour envers le Seigneur, l'amour envers les autres, l'amour envers l'Église. Alléluia. Quand on pose des gestes d'égoïsme, laissez-moi vous dire une chose, ces gestes ne pourront jamais glorifier le Seigneur, puisque nous le faisons pour notre moi, pour notre ego. Nous sommes tellement égocentrés, tournés sur nous-mêmes, et nous cherchons par tous les moyens à donner au moi l'occasion de se manifester. Vous voyez? Soyons prudents. Le moi est très subtil. Voyez-vous? Le moi mérite qu'une chose, non pas d'être encensé, de recevoir des éloges de toutes parts. Le sort du moi a été scellé à la croix. Il faut que le moi meure. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche derrière moi. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, nous le verrons dans les dimanches qui viennent, l'amour pour l'Église. Voilà, mes amis, ce qui devait et ce qui doit motiver tous les gestes que nous posons, que ce soit envers le Seigneur, que ce soit en son nom, les gestes que nous posons vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'Église. Revenons à Apocalypse, chapitre 2, à cette lettre que le Seigneur adresse à l'église d'Éphèse. Dans ce passage, nous trouvons un enseignement de premier ordre. Premier ordre concernant l'amour. Je crois que chacun de nous doit absolument lire, méditer ce passage, vous et moi. Chaque église devrait s'inspirer de cette lettre, du reste des autres lettres, mais nous sommes dans Éphèse, l'église d'Éphèse. Nous allons lire un tout petit peu, à partir du verset 2. Ah oui, on garde le verset 2, oui. Je connais tes œuvres. Le Seigneur commence par montrer à cette église qu'il connaît tout concernant cette église. N'est-ce pas? Rien ne peut échapper à notre Dieu. Il a la connaissance totale et entière de la réalité, quelle qu'elle soit. Tout est à découvert, tout est à nu devant notre Dieu. Et voilà comment il introduit son message à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail. Ici, par rapport au travail, je voudrais ouvrir une parenthèse. Le grec utilise le terme kopos, qui est traduit dans le Nouveau Testament, dans la plupart des cas, par labeur ou par la peine. Vous voyez? C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des versions qui ont à cet endroit, je connais tes œuvres, ton labeur. C'est important de le souligner. Car qu'est-ce que c'est un labeur? Un labeur, c'est un travail pénible et soutenu. C'est ça un labeur. Donc quand on parle de labeur, on parle d'un travail avec une certaine pénibilité. On peine. Ce n'est pas un travail, on va au bureau, on s'assied comme Winner derrière son ordinateur, paf, et puis de temps à autre on regarde son smartphone. Ici c'est un travail, mes amis, un travail pénible et soutenu. Un travail prolongé. Si on remplace dans notre version, le mot travail par labeur, c'est-à-dire par un travail pénible, soutenu, prolongé, on peut alors comprendre pourquoi le Seigneur met en évidence la persévérance pour cette Église. À deux reprises, il dit, oui, je connais ta persévérance. Et puis un peu plus loin, oui, je connais ta persévérance. Parce que, eh bien, ils ont eu à travailler avec peine dans un contexte où tout leur était hostile. Vous voyez ? Évoluer au milieu des païens, dont le mœurs était aux antipodes des valeurs bibliques et évangéliques, n'était pas facile. Il y avait la persécution partout. Et dans ce contexte difficile, l'église d'Éphèse a eu à travailler, a eu à peiner pour poursuivre le travail. Nous revenons. Je connais tes œuvres, je connais ton labeur et ta persévérance ou ta constance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Une église avec le discernement, oui ou non, qui a compris que tel n'était pas un vrai apôtre. Quand je lis ça, je vois un parallèle avec l'église du Seigneur aujourd'hui. Voilà. Où de gens se barrent des titres. Il n'y a jamais eu autant d'apôtres qu'il y en a aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de prophètes. Voyez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. Ce sont des choses que l'église, déjà à cette époque-là, avait vécues. Tu les as trouvés menteurs, ce faux prophète, et plutôt apôtre. Tu as de la persévérance, vous voyez, il insiste. C'est parce qu'il connaissait ses œuvres, il connaissait le labeur de cette église. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais, là le vent tourne. Mais, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai. Normalement, le verbe grec est au présent. C'est qu'il dit, sinon je viens. Ce n'est pas un futur, je viendrai, je ne sais dans combien de temps. Je viens, je suis en train de venir. La repentance est toujours le jour du salut. C'est aujourd'hui, alléluia. Je ne veux pas me repentir demain ou après-demain parce qu'il a dit, je viendrai. Normalement, le verbe est au au présent. Sinon, je viens à toi et j'écarterai. Là, c'est le futur simple. Et j'écarterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Cependant, il revient à une qualité qu'avait cette église. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïte, pour lesquelles, c'est-à-dire pour ces œuvres-là, moi aussi, j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Aux vainqueurs, pas à tous ceux qui fréquentaient l'église d'Éphèse. Attention. Mes amis, les temps sont difficiles. Nous devons prendre la parole de Dieu et la vivre. Et ne pas nous contenter à regarder à nos œuvres, à regarder à ce que nous faisons. On peut faire mille et une choses avec des motivations impures. L'Église de fait. En lisant tout ça, nous voyons que le diagnostic que le Seigneur fait pour cette église d'Éphèse est sans appel. Le Seigneur fait des reproches à cette église pour une chose, par rapport à une chose qui dépasse tout. Quelle est cette chose qui dépasse tout, qui est prééminente? Eh bien, c'est le premier amour. Cette église, avec le temps, avait fini, mes amis, par abandonner, par perdre ce premier amour. Mais tout en restant active, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Tout en continuant à faire des œuvres sociales, tout en continuant à poser des actes qui apparemment étaient nobles. Mais aux yeux de Dieu, tout cela n'était que de la vanité. Aux yeux de Dieu, tout cela n'avait aucune valeur, tant que la motivation derrière n'était pas le premier amour. Jésus commence par faire l'éloge d'une église qui a toutes les apparences d'une assemblée viable, une assemblée remplie de qualités, oui ou non? Eh oui. Une église comme on en trouve un peu partout à travers le monde, une église évangélique dans sa doctrine, une église évangélique dans sa théologie, vous voyez? Une bonne théologie. Un bon discernement et une connaissance de la parole de Dieu qui ont permis à cette église, mes amis, d'éprouver les faux prophètes. Tous ceux qui passaient par cette église et qui se présentaient comme faux prophètes, tous ceux qui se levaient en disant « Moi, Dieu m'a appelé à être prophète », eh bien, grâce à la connaissance que cette église avait, grâce au discernement, eh bien, cette église finissait par découvrir la vérité, que c'était de faux apôtres, que c'était des menteurs, que leur enseignement n'était pas conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous voyez, que ces faux apôtres n'étaient pas orthodoxes dans l'approche des différentes doctrines de la Bible. Et donc, cette église a su éprouver les faux prophètes, et les a trouvés menteurs. Oh, quelle sagesse, n'est-ce pas? Les gens venaient. Moi, je suis apôtre, je viens. Ah bon? Au bout de quelque temps, cette église, grâce à la connaissance de la parole, grâce au discernement, eh bien, comprenait tout de suite qu'ils avaient en face d'eux un aventurier, un troubadour, venu d'un autre siècle. Et puis, grâce à ce discernement, grâce, mes amis, à la connaissance de la parole de Dieu, ils avaient une attitude juste par rapport aux œuvres des Nicolaïtes. Voyez-vous, il faut savoir que les Nicolaïtes ont été une véritable menace pour l'Église à cette époque. C'était donc une secte d'origine obscure. C'était un mouvement hérétique dont les membres ou les adeptes était très porté aux spéculations, mais aussi au relâchement des mœurs, donc l'immoralité. Une secte avec des tendances morales relâchées. Et ils avaient discerné ça. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas tout ça dans les églises? Combien de pasteurs ont abandonné leurs femmes? Ou combien de femmes ont abandonné leur mari de pasteur? Parce qu'étant volage, parce qu'allant partout, vous voyez. Mes amis, nous pouvons nous retrouver dans tous les reproches que le Seigneur fait à cette église. Et cette église, par-dessus tout, a fait preuve de persévérance. Vous savez, persévérer, c'est quoi? C'est être constant dans ses efforts en dépit des échecs, oui ou non? Cette église a eu à faire face à toutes sortes de tempêtes, mais cette église a persévéré. Cette église n'a pas lâché. C'est ça la persévérance. C'est ça la constance. Cette église a gardé le cap en disant, nous, nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un d'autre que le Christ. Alléluia! Ah! Persévérance. Peut-être même que cette église a connu en son sein des martyrs. Voyez-vous? Des gens qui sont morts à cause de leur foi. Donc une église avec beaucoup, beaucoup de qualités. Mais au-delà de ces qualités, il y avait quelque chose de plus profond qui n'était pas en accord avec la volonté de Dieu pour cette église. Au-delà de tout ça, de ces œuvres merveilleuses, du dur labeur que cette église a eu à endurer, de la persévérance face à la persécution, face à toutes sortes de problèmes, de la persévérance face à des tempêtes de tout genre, cette église avait perdu, hélas, son premier amour. Voilà ce qui compte. Pas ce que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, même si nous sommes appelés à être actifs, à faire des choses. C'est d'abord le premier amour. Et à cause de cela même, le Seigneur appelle cette église à la repentance. Seul moyen pour cette église de ne pas être exclue du corps du Christ. Ainsi, mes amis, le texte que nous venons de lire, d'Apocalypse 2, dit clairement, on n'a pas besoin d'un cerveau à plusieurs étages pour comprendre ce que la Bible dit ici. C'est que le Seigneur nous dit. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre ceci. Voyez-vous, ce que le Seigneur dit, c'est que la seule chose qu'il attend de nous, qu'il attend de ses disciples, qu'il attend des véritables chrétiens, c'est que nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, en lui donnant la seule place qui lui revient dans notre vie. Quelle est cette place? La première. Oh, alléluia! La première place. Voilà pourquoi je reviens à la prière de David. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Occupes-tu toujours la première place dans ma vie? Ou alors, Seigneur, tu l'as laissé, j'ai tout fait pour que tu ne l'occupes plus et que désormais c'est moi qui suis ainsi sur cette place. Pour comprendre cette exigence de la part du Seigneur, c'est-à-dire faire tout au nom du premier amour, eh bien nous devons considérer comment lui, le Seigneur de gloire, lui le Fils du Dieu vivant, lui la parole qui existe de toute éternité, comment lui, Jésus, s'est donné à nous, pour nous sauver, pour nous délivrer de l'esclavage par rapport au diable, par rapport au péché, pour nous libérer du pouvoir de la mort et nous donner l'occasion de nous réconcilier avec le Créateur, nous donner l'occasion de devenir des enfants de Dieu et d'entrer dans son royaume, Christ a quitté son trône de gloire. Christ a laissé le ciel de son Père. Il est entré dans l'espace et dans le temps et il est venu jusqu'à cette terre, sur cette terre, pour donner sa vie à la croix. Quelle était la motivation derrière tout ça? Pensez-vous qu'il est venu pour un intérêt? Je vous pose la question. Répondez-moi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur avait un intérêt quelconque? Quel intérêt? Tout lui appartient. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il peut aujourd'hui créer de nouveaux anges. Voyez-vous, ce n'était pas par intérêt. Sa motivation a été le premier amour qu'il nous porte. Alléluia. Un amour inégalable. Un amour insondable. Un amour incommensurable. Un amour au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Un amour aux dimensions qui vont au-delà de la raison humaine. Paul parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de cet amour pour décrire, mes amis, cet amour qui est au-delà de tout, cet amour qui a fait que le Dieu qui tient le monde entier dans sa main, qui tient le cosmos dans sa main, puisse nous envoyer son Fils, par qui il a créé toutes choses, venir, où c'est, pas sur la plus grande planète du système solaire, pas sur la seule galaxie qu'il y a, non, sur un bout, un grain de poussière, à l'échelle galactique, ce grain de poussière étant la Terre, c'est là qu'il est venu. C'est là qu'il a posé ses pieds. C'est sur cette terre qu'il a marché. Non pas parce qu'il avait un intérêt auprès de qui que ce soit, pas du tout. Mais par amour. Encore l'amour, alléluia. Cet amour aux dimensions qui vont au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Comme le disent les paroles de ces chants, un amour plus vaste que les océans, plus profond que les mers et plus haut que l'azur des cieux. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix. Un amour formidable. Mes amis, passons du temps avec Dieu pour qu'il nous aide à comprendre que tout ce qu'il fait pour nous, il est fait par amour. Gloire à Dieu. Mes amis, lorsque le Seigneur constate que l'église d'Éphèse ne remplit plus sa mission, au nom de son premier amour, mais plutôt par devoir, mais plutôt par contrainte, voyez-vous, mais plutôt par un quelconque à contre-cœur, eh bien le Seigneur tire une conclusion. Cette église n'est plus dans l'alliance d'amour qu'il a conclue avec elle à la croix. Il la menace donc logiquement de se séparer d'elle si elle ne se repent pas. Nous, pour parler de la repentance, c'est seulement de choses, l'immoralité, le vol, la tromperie et tout ça. Mais regardez, mes amis, cette église avait un sens aigu de la sainteté. Parce qu'à partir de ça, eh bien, ils ont eu en horreur les œuvres des Nicolaïtes, qui étaient donc des œuvres de relâchement sur le plan moral, etc. Mais le Seigneur demande à cette église de se repentir. Quand on parle de premier amour, cela ne veut pas dire que dans l'amour, il y a des échelons, il y a une sorte de graduation, il y a un premier amour, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un huitième, il y a un vingtième, pas du tout. Le premier amour, c'est cet amour suprême. Oh, alléluia! L'amour suprême. Retenons donc pour nous que ce qui est valable pour l'église d'Éphèse l'est tout autant pour chacun de nous. Aux yeux du Seigneur, agir pour se donner une bonne conscience ou tout autre motif qui ne serait pas le premier amour de sa personne, eh bien agir de cette manière est sans valeur. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons faites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'œuvres que nous avons accomplies. Qui aux yeux de Dieu ne sont que vanité, parce que derrière ces œuvres, il n'y a pas eu ou il n'y avait pas le premier amour, chercher l'amour, faire tout pour le Seigneur. Pour terminer, nous allons lire très rapidement 1 Corinthiens 13, le 3 premier verset, en guise de conclusion. Nous allons lire calmement et vous allez voir que faire des œuvres, faire toutes sortes de choses, tout cela peut être fait sans qu'il y ait l'amour derrière. L'apôtre Paul commence ainsi, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, eh bien je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Est-ce qu'on peut faire retentir un tout petit peu la cymbale? Ok. Hein? Voilà, c'est tout. C'est tout. Sans plus. Quand on agit sans amour, On n'est que du bronze qui résonne. On n'est qu'une cymbale qui retentit sans plus. Vous voyez, quelqu'un a faim, tu fais résonner la cymbale, ça chatouille ses oreilles, ça peut même lui faire du bien, ça peut lui rappeler des moments merveilleux, mais sans plus. Donc, si je fais tout ça, si je n'ai pas l'amour, Paul dit que je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et il continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis... Nous cherchons une foi qui déplace les montagnes. Oui ou non? Une foi qui apporte la guérison aux malades. Au nom de Jésus, sois guéri. Oh! Mais le Seigneur dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc aux yeux de Dieu, c'est de la vanité. Ça n'a aucune valeur. Il poursuit. Et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, oh là là, c'est une bonne chose, non? À la fin de chaque année ou en des périodes un peu spéciales, les gens ont l'habitude d'aller offrir à manger aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux, aux prisonniers, etc. C'est une très très bonne chose. Mais cependant, la Bible nous dit qu'on peut faire tout cela sans amour. Simplement pour être vu. D'ailleurs, c'est très clair ici. Regardez toutes ces ONG, toutes ces ASBL, ces associations sans but lucratif, toutes ces églises, même certaines personnalités politiques. Vous êtes là. À chaque fois que des gens se sont posés, on va chercher quelques caméras. Oui ou non? L'honorable tel vient d'offrir 100 sacs de riz aux déplacés des Mitendi. Vous voyez? D'ailleurs, on dépose les sacs. Les gens viennent, ils ont faim, ils ont hâte. Ils ont bossé là. Pourquoi doivent-ils attendre? Parce que l'honorable doit arriver. Il est précédé de son équipe. Et puis l'honorable descend. Honorable, merci. Oui, les gens, mes amis, vous savez, quand vous avez faim, quelquefois, vous sacrifiez votre dignité. Et c'est ce qui est triste. Voyez-vous, même des gens, à cause de la faim, paupérisés, ils n'ont plus de dignité. Honorable. Et les gens attendent, les enfants sont là, ils sont heureux. Oui, c'est un bon geste. Et puis l'honorable vient, et puis il fait ça, ok, et puis il vient, et il essaie un tout petit peu de jouer d'agrémenter ça en se mettant en évidence pour que quand il partirait, qu'au-delà des sacs de farine ou de riz, que les gens gardent son image en mémoire. Attention, ils ont des conseillers en communication. Et puis... merci maman, vous voyez toutes ces femmes avec les enfants, papa, merci, Damba Pambolabino. Et ça, quand Zambé, mon toitine de viso. Oui, mais Dieu seul sait quelle est la motivation derrière. On attend l'approche des élections pour visiter certains quartiers, pour enfin se découvrir cette vocation à se tourner vers les autres. Pendant 5 ans, on a oublié ceux qui vous ont voté. Voilà. On attend. Et puis on vient petit à petit. On envoie d'abord des stylos. Et puis des t-shirts. Et puis on vient. Et une fois les élections passées, on est élu dans Lukunga. Tu n'as pas posé ta candidature. On a voté. Voilà. Voyez. Tout ça des motivations impures. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et il continue, quand j'ai distribué je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, au point de tout perdre. Je me retrouve sur le carreau parce que je donnais tout aux pauvres, aux nécessiteux. Quand je livrerai même mon corps, ah, vous voyez mes amis, pour être brûlé pour les autres, nous cherchons quelqu'un, un bouc émissaire, qu'il soit brûlé pour que nous épargnions la ville, pour que nous fassions ceci. Ah, par amour pour mon peuple, je me sacrifie. La Bible nous dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert. Mes amis, l'amour, encore l'amour, et toujours l'amour, le premier amour. Acclamons-le. Nous allons prier. Et puis nous passerons aux offrandes. Merci. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans le piège de l'église d'Éphèse, qui était active dans plusieurs domaines, qui avait une connaissance approfondie de ta parole, connaissance lui ayant permis de discerner, de connaître les vrais apôtres, mais aussi de rejeter, de trouver menteur le faux apôtre. Au-delà de tout cela, de toutes ces œuvres, au-delà de la persévérance par rapport à toutes sortes d'adversités, de persécutions, cette Église avait perdu l'essentiel, à savoir le premier amour. Oh, combien de fois nous avons agi avec des motivations impures. Combien de fois, Seigneur, nous avons posé des actes, soi-disant pour toi, soi-disant par amour pour les autres, alors qu'en réalité, c'était simplement une occasion pour nous de nous mettre en évidence et d'attirer le regard des gens sur nous. Ô Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à revenir à toi et à chercher désormais ce contact avec toi, cette communion, cette intimité avec toi, afin que lorsque nous nous lèverons pour, Seigneur, accomplir ta volonté, eh bien que nous le fassions par amour pour toi, animé du premier amour, ce premier amour qui t'a amené du ciel jusqu'à la terre, de la terre jusqu'à la croix, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'à la droite du Père. Merci pour tout, aide-nous à t'aimer véritablement. Merci Seigneur. Nous voulons également, Seigneur, prier pour les offrandes, pour les dîmes. Quelle grâce pour nous, quel privilège, Seigneur, de contribuer pour l'avancement de ton royaume. Tu vois, Seigneur, ce projet de construction. Nous prions pour qu'au Dieu, tu nous donnes la foi dont nous avons besoin, mais aussi l'amour pour toi, afin de pouvoir, Seigneur, soutenir ce projet de construction. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.